summer at Chessington World of Adventures Resort. Answer the call of the wild. With over 1,000 of the world's most amazing animals.
And over 40 of the wildest rides and attractions.
Meet the Gruffalo and all your favourite characters at the Gruffalo Summer Party. And so much more. Book early and save up to 40% at Chessington.com. It's Britain's wildest adventure for all the family.
Vous écoutez
RMC. RMC.
Welcome, Silvino. Are you okay? And are you happy to be here?
I am very happy to be in the big club Tottenham.
Jusqu'à minuit, c'est l'after foot.
I want to win here, you know, before. And after that, we will see how we go to fish. Huh?
Nicolas Jamain.
L'after est là. Bonsoir, si vous nous rejoignez, on est ensemble jusqu'à minuit avec Jonathan Macardy, avec Ludovic Obraniak. C'est l'heure du foot étranger. Après le débrief de la Ligue 1, je vais quand même vous rappeler les résultats de la Ligue 1 ce soir. Évidemment, il y avait 4 matchs seulement. Nantes a battu Amiens sur la pelouse de Buzyn. Victoire de Bordeaux 2-0 sur la pelouse de Dijon. Succès 3-0 d'Angers face à Metz. Brest a battu Reims 1-0. Je vous rappelle que la suite de la journée, c'est la semaine prochaine. Demain, déjà 3 matchs au programme. Monaco-Nîmes à 15h. Strasbourg-Rennes à 17h. Paris-Toulouse à 20h. Et puis mardi, Montpellier-Lyon 19h, comme le mercredi à 19h, Lille-Saint-Etienne, et ça se terminera par Nice-Marseille mercredi soir à 21h. G7 oblige, tous les flics de France à Biarritz, dans le sud-ouest. Donc impossibilité d'organiser des matchs, trop de matchs ce week-end. Les drôles de dames sont là, c'est parti pour une heure. On va commencer avant d'accueillir Simone Rovera. On aurait dû prendre le martinet d'ailleurs, t'as raison,
c'est pour Simone. Le petit fouet, truc. Quelque chose.
Simone reviendra dans un instant, mais d'abord on va démarrer par Julien Laurent. Salut Julien.
Salut Nico, salut à tous.
Salut Julien.
Bon, bel après-midi de football. On va dans un instant parler de la défaite incroyable de Manchester United face à Crystal Palace, alors que United était revenu au score. Mais on va démarrer par l'affiche de la journée. Julien, Liverpool qui bat Arsenal 3-0. Fessé par Liverpool. 3-1, pardon.
Logique.
Ah, attends. Julien aussi bizarre. Nous avait donné une mauvaise composition aussi hier, hein. Moins flagrante que Simonet, mais il nous avait dit que tu nous avais pas dit que la Lacazette serait
Pépé Aubameyang, Lacazette.
Si, je pensais effectivement
que Unai Emery, Julien, c'est pour ça que on avait parlé. Moi, je t'avais dit, ça me semblait bizarre que premier match, il est pas aligné Lacazette. Alors, il était censé penser que c'était pour une raison de blessure ou peut-être de. Mais forcé de constater qu'il l'aligne pas à nouveau, quoi. C'est surprenant.
C'est vrai qu'à l'extérieur, donc ça fait deux matchs, deux fois Lacazette sur le banc qui ensuite entre en jeu. Et hier soir dans l'émission, j'avais parlé justement du Liverpool Arsenal de la saison dernière où ils avaient perdu 5-1, où Lacazette était déjà sur le banc, en disant que je pensais qu'Emery avait quand même retenu les leçons de la saison dernière, où tu peux pas laisser non plus Aubameyang tout seul en pointe, comme ce fut le cas l'année dernière et comme c'était encore le cas aujourd'hui, où il a été encore trop isolé, où il a finalement eu quasiment aucune influence sur le match. Et alors que Lacazette, lui, fait jouer Aubameyang, fait jouer les autres.
Bien sûr. Il
a ce rôle de numéro 9, mais qui est plus pour faire jouer les autres, que Aubameyang n'a pas, par exemple. Et pour moi, c'est encore une énorme erreur d'Emery aujourd'hui.
Il a pas fait
privé
ça
de Lacazette
bêtise,
pour un match pareil. Non, il a pas fait que ça comme bêtise. Il y en a eu d'autres, mais c'est vrai que si Nicolas Pépé, qui a fait une bonne première titularisation, qui a fait des très bonnes choses, d'autres un peu moins bien, mais une très bonne chose, s'il marque son 1 contre 1 avec Adrian à 0-0, ça fait 1-0 pour Arsenal et peut-être que le résumé change. Après, tu prends un but sur un corner, faute de Marca juste avant la pause, tu prends un penalty pour une faute stupide de David Luiz dont on savait qu'il était capable d'en faire des comme ça juste après la pause.
David Luiz,
c'est logique si tu veux, parce que bon.
Non mais
c'est ce qu'on a dit depuis le début. Depuis qu'il a signé,
ça c'est vrai. Et Julien, franchement, tu regardes la composition d'équipe.
Ludo, vas-y.
Mais non, mais erreur de casting, oui, David Luiz. Encore une fois, tu le prends.
Mais il joue à trois parfois.
Comme le fait Arsenal assez fréquemment.
Il se
renforce partout, sauf derrière. Mais à chaque fois.
Le problème de moi, ce que je vois sur ce match-là, c'est surtout que la composition d'équipe n'a ni queue ni tête. Tu mets David Luiz dans une défense à 4, forcément, tu vois, il fait des cagades et ça te coûte un but. Tu vois Dani Ceballos qui a été très bon sur les premiers matchs. Pourquoi tu le mets si haut sur terrain? Pourquoi tu le mets quasiment derrière tes deux attaquants? Ça a ni queue ni tête. Tu ne mets pas Alexandre Lacazette. Ça a ni queue ni tête. Et encore une fois, enfin, j'ai rien contre Willock ou contre Guendouzi, mais j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi un joueur comme Torreira n'est pas titulaire indiscutable dans ce milieu d'Arsenal.
On va pas donner des leçons.
Bah non, mais en tout cas, la composition est bizarre.
Mais tu sais que tu vas subir contre les Reds à Anfield une pression terrible. Tu sais que tu auras des coups à jouer sur le plan offensif. Tu as Alexandre Lacazette qui peut monopoliser l'attention de la défense centrale. Tu sais que tu as deux latéraux qui ont tendance à monter rapidement. Donc tu sais que Pepe d'un côté, Aubameyang de l'autre,
ça bloque les latéraux d'Arsenal,
peuvent partir de Liverpool. Partir dans le dos de ces latéraux-là.
Mais non, mais
parce que Lacazette va avoir tendance. Et tu sais que Dani Ceballos, lui, il est capable, en jouant un cran plus bas, de pouvoir alimenter ces joueurs-là si tu subis un peu trop.
Contre.
Tu joues l'opposé de ça.
C'est vrai, Julien, c'est l'interrogation sur le hashtag RMC Live. Pourquoi la Gazette ne trouve pas grâce cette saison, en tout cas pour l'instant, aux yeux de Unai Emery? On rappelle déjà, Julien, que la saison dernière, il avait déjà du mal à aligner les deux ensemble, hein, la Gazette et Aubameyang.
À l'extérieur. À domicile, les deux ensemble, les deux en pointe, ça y allait. À l'extérieur, effectivement, c'était parfois plus rare. C'est simplement parce que aujourd'hui dans son esprit, c'est le plan de jeu d'Emery aujourd'hui, c'était on va jouer en contre, on va aller très très vite vers l'avant avec Willock, avec Aubameyang et avec Pepe. On va jouer très vite comme ça. Moi, comme je l'ai dit hier et comme on vient d'en parler aussi, pour moi Lacazette, même s'il est moins rapide que certains autres, il a quand même cette capacité à les faire jouer eux. Et comme l'avait très bien dit hier Ludo, il va décrocher,
il va permettre libérer l'espace dans le dos des centraux.
Il est rapide Lacazette.
Vas-y Julien.
N'oubliez pas du tout Lacazette. Hein.
Julien, vas-y.
Non, juste pour finir sur Lacazette. La saison dernière à l'Emirates, c'est vrai que c'est différent, c'est à domicile, etc. Il y a une autre ambiance, mais Lacazette avait causé beaucoup de problèmes à la défense de Liverpool et notamment à Virgil van Dijk. Un match dans lequel il avait marqué d'ailleurs, il y avait eu un partout, alors qu'Arsenal méritait sûrement de gagner cette rencontre. Donc il a joué contre van Dijk, il a aussi été très bon contre van Dijk et je ne comprends pas encore pourquoi aujourd'hui il n'est pas titulaire. Il le fait entrer quand tu perds 3-0, ça ne rime à rien d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est difficile à comprendre.
Parle-nous, Julien, de Nicolas Pépé. C'était sa première titularisation. Je l'ai trouvé plutôt en jambes et j'ai trouvé que c'était presque le meilleur joueur d'Arsenal sur le terrain. Tu es d'accord avec moi ou pas?
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est dommage le 1 qui perd son duel avec Adrian, comme on l'a dit en première période, mais il a montré de très belles choses. Ça fait longtemps que Andy Robertson, sur son côté, n'a pas été aussi malmené parfois par un ailier droit d'une équipe adverse. Robertson, entre les deux latéraux de Liverpool, entre Alexander-Arnold et Robertson est celui qui, normalement, défensivement, est le plus solide des deux. Il y a encore des absences côté Alexander-Arnold. Il y a très peu d'absences en général côté Robertson. Et pourtant, aujourd'hui, parfois, il a souffert par rapport à la vitesse, par rapport au dribble de Pépé. Après, c'est une première titularisation, c'est seulement son troisième match. On l'avait dit hier, il avait joué 15 minutes le premier match, 45 le deuxième. Titulaire aujourd'hui, il faudra encore un petit peu de temps, mais tu sens quand même qu'il y a quelque chose. Et dans les matchs comme ça, où il aura beaucoup d'espace devant lui, c'est là où il sera sûrement beaucoup plus dangereux que dans les matchs à domicile où ils joueront contre des équipes qui seront très basses et très regroupées.
Benjamin au 32-16, supporter d'Arsenal, nous a appelé. Salut Benjamin.
Bonsoir à tous.
Salut Benjamin. Toi, t'es comme nous, t'es dans l'incompréhension face au choix de Unai Emery.
Emery, de toute façon, dans les grands matchs, c'est l'incompréhension totale. Contre City, contre Liverpool, l'année dernière, déjà, il avait fait des compos totalement saugrenus. Il avait mis Lacazette sur le banc, il avait mis Iwobi. Enfin, parfois, il mettait Mkhitaryan. Mkhitaryan joue pas pendant 2 mois. Puis d'un coup, il revenait, il jouait les gros matchs, Lacazette était sur le banc. C'est très étonnant. Aujourd'hui, Torreira, qui est le meilleur milieu de terrain,
on est d'accord, ouais.
Il le met sur le banc. Lacazette, c'est le meilleur joueur pour moi l'année dernière, clairement. Enfin, les supporters d'Arsenal l'ont élu meilleur joueur. Il est sur le banc, alors que bon, c'est le meilleur joueur de l'équipe, hein, dans le jeu, techniquement, tactiquement. Aubameyang, je trouve qu'Aubameyang, à part marquer des buts, dans le jeu, il est mauvais.
Oui, mais il en marque des buts, Aubameyang.
Je trouve qu'il a aucune intelligence tactique. Il a aucun. Que Daniel Riolo parlait de QI football. Je trouve qu'Aubameyang, il a un QI football très très faible, quoi. C'est-à-dire qu'il ne réfléchit jamais quand il y a le ballon.
Oui, enfin, quand tu mets 30 buts la saison dernière.
Je suis d'accord avec vous, mais dans le jeu, dans la participation au jeu, dans les gros matchs, c'est très très faible. Alors qu'un joueur comme Pépé, qui je trouve a fait une bonne première mi-temps, après il s'est éteint dans la deuxième comme toute l'équipe, mais en première mi-temps il a eu des occasions, il a beaucoup secoué les défenseurs Liverpool, c'était pas mal, mais bon, au milieu de terrain, Guendouzi, voilà, c'est très 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 faible, il se la raconte beaucoup, mais bon, c'est pas au niveau. C'est Bayo,
Torreira est largement meilleur.
Oui, clairement, Torreira est vraiment meilleur. Ceballos, c'est un super joueur, mais bon, aujourd'hui, il a fait un mauvais match. Et les côtés Arsenal, voilà, c'est toujours aussi faible. Montréal, c'est très très vieux. Maitland-Niles, c'est pas assez expérimenté. Et Sokratis, David Luiz, c'est une caravane. Donc bon, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont dans cette équipe, mais bon, Tierney va arriver, le latéral écossais. Quand il sera remis de sa blessure, la Lacazette va être remis dans le jeu et là on aura une équipe compétitive. Mais quand contre la meilleure équipe d'Angleterre vous mettez pas votre meilleure équipe, on peut pas attendre grand chose.
Merci Benjamin d'avoir appelé au 32-16. Tiens, parlons de Liverpool quand même les gars, parce que on a quitté Liverpool la saison dernière championne d'Europe, on les retrouve tels quels. Impressionnant.
L'enseignement aussi, c'est quand on entend les déclarations de Thomas Tuchel qui nous raconte que les joueurs sont fatigués parce qu'ils reviennent et tout. Exactement. Ça. Quand tu vois ceux qui ont joué.
Ouais, mais c'est là, il a fait la canne.
Salah, Mané, quand tu vois l'intensité qu'ils sont capables de mettre dans ces matchs-là, tu sens bien qu'ils nous mènent un peu en bateau et que ça tient pas deux secondes.
Ce qui est intéressant avec Liverpool, c'est que cette année, même s'ils sont pas recrutés, il y a pas un jeune, il me semble, c'est qu'ils ont une meilleure équipe. Ils ont une meilleure équipe parce qu'ils ont récupéré Oxlade Chamberlain, oui, qui est rentré en jeu, qui avant qu'il se blesse était un joueur important dans la, du moins dans la rotation de Jurgen Klopp. Il y a Lallana aussi qui a fait quasiment une année blanche là, il est rentré, il était intéressant, j'ai trouvé.
T'as Shaqiri au final, qui est toujours là aussi
pour là. Bon, on a Biqueta, il y a des problèmes, mais il va bien finir par pointer le bout de son nez. Donc au final, tu regardes leur effectif, certes ils n'ont pas recruté, mais il y a les mêmes certitudes.
Julien, on parle du championnat d'Europe, hein, avec la Ligue des Champions la saison dernière, mais est-ce que finalement ils sont pas justement maintenant en train d'arriver en pleine maturité,
un pic de
autour
fort,
de Klopp,
ouais.
Déjà.
C'est pas bête.
Si, ouais, c'est possible. Ce qui est intéressant cet été, c'est que on a posé la question à Klopp plein de fois, mais pourquoi vous recrutez personne? Pourquoi est-ce que... Et Klopp a dit, honnêtement, il a dit, mais sincèrement, on essaye, hein, je vous promets qu'on parle à des gens, à des joueurs, on parle à des clubs, on parle à des agents, mais à un moment, quand t'arrives à un tel niveau avec un tel effectif, c'est compliqué d'apporter quelqu'un qui est meilleur que ce que t'as déjà. Tu vois, ou quelqu'un qui va pas trop déranger l'homogénéité ou l'ambiance dans le vestiaire, des choses
mais
comme ça.
Mais Julien, personne ne veut
partir. Je pense qu'ils ont vraiment essayé, ils ont regardé. Oui, en plus. Bon, après, je pense que s'ils avaient recruté de nouveaux joueurs offensifs, peut-être qu'un joueur comme Shaqiri, par exemple, oui, aurait compris qu'il aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins joué, voire très peu. Il aurait demandé à partir.
Mais Oxlade et Lallana, c'est
un joueur comme Origi, par exemple, a plus de responsabilités.
Oui.
Ouais, non, mais c'est des bons joueurs, mais Klopp aurait aussi pu aller chercher, je sais pas, moi, par exemple, un joueur, un milieu de terrain qui pour lui était meilleur que Lallana et Oxlade Chamberlain. Mais il l'a pas fait parce qu'il a peut-être pas trouvé ou parce que il s'est dit que ça valait pas la peine de dépenser de l'argent sur un profil.
Il en est où, Naby Keita, Julien?
Il a eu quelques pépins physiques pendant la préparation.
Encore, ouais.
Ce qui l'a pas aidé. Après, je pense qu'il est encore, un petit peu loin dans son apprentissage de la méthode Klopp et dans son apprentissage aussi du football anglais. Et le milieu de terrain tourne tellement bien avec les 4-5 qui sont là en rotation. Donc, si tu prends les trois qui ont débuté aujourd'hui, Wijnaldum, ouais, Fabinho et Anderson qui sont les trois, les trois numéro un. Ensuite, derrière, t'as sûrement un Milner qui devrait être le quatrième choix. Et après, on l'a dit, Oxlade Chamberlain en cinquième choix, voire Lallana en cinquième choix. Naby Keita, c'est quand même derrière tout ça.
Ouais.
Donc, je pense qu'il a encore pas mal de travail à faire et de retard à rattraper. Oui, ils l'ont payé cher, mais le potentiel est là. Après, à un moment, Klopp va dire, pour un club comme nous, il y a plus de patience à avoir maintenant. C'est soit maintenant il se met au niveau, soit il se met pas au niveau, on va le revendre, quoi.
Il y a pas de folie, Julien. C'est ça qui est bien, c'est que il pointe les faiblesses de son effectif année après année, et Dieu sait qu'il y en a pas des masses. Et il arrive à prendre le joueur idoine qui arrive à compenser cette faiblesse là. C'est ce qu'Arsenal, et c'est ce qui fait la différence avec Arsenal. Arsenal a un très bon milieu de terrain. Arsenal a une très belle attaque, mais Arsenal a une défense, c'est...
Ils n'arrivent pas à régler le problème de leur défense.
Comment tu peux aller chercher David Luiz qui incarne justement
la débrilité, la déconcentration.
Est-ce que tu as le choix? Tout le monde, ils se sont tous renforcés.
Mais après,
plutôt que de dépenser des...
T'as loupé le point principal. Le point principal de la différence entre deux équipes, c'est simplement que d'un côté, t'as un entraîneur de top niveau, et de l'autre, t'as un entraîneur qui... bon entraîneur, moyen.
Aussi Emery avec David Luiz, j'ai un doute. Oh, une saison commun ou pas, Emery Luiz au PSG?
Non, pas une saison.
Si, hein, Julien.
Ils sont connus au PSG.
Ils sont connus au PSG, effectivement.
C'est aussi explique cela, peut-être qu'il a voulu retrouver un gars qui connaît.
David Luiz, c'est quand même pas réputé pour être l'assurance touriste.
Mais non.
Non, et puis aussi.
Il a pas eu au PSG.
Non,
la première saison d'Emery, c'est la remontada à Barça. Il était pas.
Attends, Julien, vas-y, Julien.
Si, il a commencé la saison, il commence cette saison-là au PSG, David Luiz.
Ouais, mais il s'en va.
Le truc de David Luiz.
Entièrement. Ouais, c'est ça.
Oui, mais ils ont quand même travaillé ensemble, ils ont fait toute une pré-saison ensemble, ils ont fait tout un championnat ensemble.
Voilà, pour
David Luiz, c'est qu'ils ont essayé. Non, juste pour finir, ils ont essayé d'autres défenseurs centraux avec qui ça n'a pas marché. Et quand il te reste plus qu'un jour et que tu cherches un joueur expérimenté qui a gagné des choses, il te reste David Luiz et pour 8 millions de livres, tu vas le chercher, quoi. Ouais. Tu prends le risque.
Voilà pour Arsenal battu 3-0 par Liverpool. Tiens, également un match un peu dingue, Julien, qu'on a vu sur RMC Sport cet après-midi. Manchester United contre Crystal Palace. On fait le scénario. Crystal ouvre le score grâce à Jordan Ayew, à la 32e égalisation. Eh ben oui, Marc et Ayou, ils sont là. Égalisation pour United de James à la 89e et incroyable, alors que personne n'y attendait. C'est Van Aanholt qui donne la victoire à Crystal Palace à la 93e minute de jeu. C'est marrant. C'est un peu comme Liverpool Arsenal. On a l'impression que les années se suivent et se ressemblent en Angleterre. Qu'est-ce qui s'est passé, Julien, pour Manchester?
T'as raison, c'est exactement ça. C'était vraiment un air de déjà-vu dans cette performance de Manchester, déjà dans les buts concédés, hein, un peu comme la saison dernière, des buts que jamais ils doivent encaisser, avec des Réa qui est vraiment pas au niveau, une défense qui est quand même un petit peu louche encore, un manque de créativité certain, 3 tirs cadrés seulement dans la rencontre, et ils reviennent quand même au score, ils égalisent quand même avec le but du jeune Daniel James, la passe décisive de Martial, et puis après, perte de concentration, ils prennent un but dans les arrêts de jeu. Rashford manque un penalty, c'est le grand point de débat, parce que toute la semaine on a parlé du tir au but de Pogba lundi soir contre Wolverhampton. Est-ce que Pogba aurait dû prendre ce penalty? Rashford avait marqué un penalty contre Chelsea. Là il y a penalty. Pogba dit à Rashford non, je le sens bien, c'est moi qui le prends. Il rate son penalty. On pose la question à Ole Gunnar Solskjaer hier en conférence de presse. Qu'est-ce qui va se passer au prochain penalty? Solskjaer dit moi je décide pas qui tire les penalties. Je fais pas comme les autres entraîneurs. Je décide pas. C'est à eux de voir sur le terrain, d'en débattre sur le terrain au moment du penalty, de voir qui va le tirer. Tout le monde dit, mais c'est de la folie. Normalement, t'as un tireur numéro 1, un tireur numéro 2. Si le numéro 1 est plus sur le terrain, le numéro 2 prend le penalty, etc., etc. Là, il y a penalty pour United. Rashford dit, je le sens bien, je le prends. Il le rate aussi. Et après, comme on l'a dit, Crystal Palace l'emporte en plus à la dernière minute à Old Trafford. Un scénario incroyable pour une équipe qui, clairement, n'est pas encore guérie par rapport à ce qu'on avait pu voir la saison dernière.
Ludo? Non, c'est les années, comme le dit Julien. Moi, je suis d'autant plus peiné que je suis un grand fan de Manchester United et de Sir Alex, mais force est de constater que depuis qu'il est parti, ce qu'on vit à regarder Manchester United est plutôt déroutant. Chaque année, on n'arrive pas à reconstruire une équipe capable de pouvoir performer, parce que pareil, sur le plan du recrutement, je trouve pas que ça soit judicieux, analysé, où on arrive à compenser les faiblesses trop de dépenses qui sont pas indispensables. Et puis, si tu veux, tu peux avoir des jeunes pépites, des flèches devant, Lingard, Rashford,
Martial. C'était une grosse défense également, Manchester. Ils ont investi énormément.
Non, mais à un moment donné, il faut des mecs pour donner.
Énormément.
Nico, il faut des mecs pour donner les ballons. Tu peux avoir des mecs qui vont à 3000 à l'heure, qui sont virevoltants, mais il faut des mecs pour donner les ballons. Alors certes, t'as Paul Pogba, mais qui est aussi dans une mouvance actuelle où peut-être départ, pas départ, mais t'as Juan Mata sur le banc. Si tu veux mettre un peu de liant dans ton jeu, essayer d'envoyer tes bombes, tes fusées sur orbite, là, il va falloir quand même à un moment donné des gens qui donnent des ballons. Et les gens qui donnent les ballons, y en a pas. Des créateurs de jeu à Manchester, il y en a plus. On prend que des jeunes là qui vont à 2000 à l'heure, mais qui n'ont pas une science ou un QI football, pour moi, ultra développé.
T'as quand même le sentiment que le fossé se creuse entre City, Liverpool et les autres qui prennent du retard ou qui accumulent du retard. Chelsea, en revanche, Julien, a gagné. Ah. Chelsea a gagné 3 buts à 2, un match un peu fou également. Chelsea avait ouvert le score, avait égalisation de Norwich. Puis Chelsea repasse devant avant que Norwich égalise. Et puis Abraham a donné le succès aux Blues à la 68e minute de jeu.
Julien nous parle de ce jeune avant-centre-là.
Abraham, doublé d'Abraham ce soir, cet après-midi.
Ouais. Cet après-midi, effectivement, qui va lui faire beaucoup de bien. Ça va faire beaucoup de bien à Frank Lampard aussi, à Chelsea, cette victoire, la première de l'ère Lampard, après la défaite, l'humiliation à Manchester contre United dans le premier match, la défaite contre Liverpool après au tir au but dans la Super Coupe d'Europe, et puis le match nul contre Leicester à domicile le week-end dernier. Ça va leur faire beaucoup de bien, effectivement. Deux buts de Tammy Abraham, un but du jeune Mason Mount qui avait déjà marqué contre Leicester, deux purs produits du centre de formation de Chelsea. C'était ça aussi, nommer Lampard comme entraîneur. C'était aussi, on peut pas.
Les jeunes, ouais.
Donc, faut faire confiance aux plus jeunes. Ils ont un très très bon centre de formation.
Ils sont une grosse saison quand même, le 9.
Quasiment
là.
Tous les titres nationaux.
Je l'avais vu contre.
Tammy Abraham, il avait été prêté d'abord à Bristol City, à Aston Villa, et ensuite la saison dernière, il a fait une très bonne saison. Mason Mount avait fait une très bonne saison lui aussi avec Derby County, avec Lampard.
Ouais.
Voilà, pas le meilleur buteur, parce que
non, c'est pas lui le meilleur buteur.
Qui a marqué d'ailleurs aujourd'hui. C'était Pouki avec 29 buts, mais Abraham avait marqué 22 buts, je crois, avec Aston Villa, donc c'est un bon total quand même. Mais on se demandait tous s'il allait pouvoir passer le palier de la Première Ligue. Il avait frappé contre le poteau contre United en début de match. Il avait été un petit peu malchanceux après, notamment dans le jeu sans ballon, où il a beaucoup de travail à faire, notamment dans son mouvement. Mais il a montré cet après-midi que c'est aussi ce genre de buteur-là qui peut faire beaucoup de bien à Chelsea. Match, il a un gros potentiel. Maintenant, il montre qu'en Première Ligue, il peut aussi assurer.
Merci Julien, excellente soirée à toi. Demain, City qui joue.
Merci les gars.
City joue contre...
Donc demain, on a Tottenham Newcastle et Manchester City.
Je l'avais noté. Bournemouth pour City.
Bournemouth, c'est ça, exactement. Voilà. Contre qui ils ont jamais perdu, même pas fait match nul. Hein. Ils ont toujours battu.
Voilà, donc a priori, on a City et Liverpool déjà en tête, co-leader avec 9 points en 3 journées.
Ah, c'est bien.
On va revivre la même saison, messieurs.
Ce qui était prévisible.
Voilà, c'est aussi pas que l'an dernier.
C'est bien comme la Ligue 1, la première année que vous avez vu, on sait déjà à l'avance ce qui va se passer presque.
Ouais, ça y est. Moi, ils sont deux.
Ça y est.
Sauf comment ils sont deux.
Nous, on a un ennemi, c'est ça.
Ouais. On sait pas, cette année peut-être on sera deux avec Lyon, mais.
Peut-être. Ouais. Merci Julien, excellente soirée. Attends, dans un instant, il est là, il nous attend, il est connecté dans son palace turinois. Simone Rovera nous doit nous délivrer les explications. Parce qu'on est en colère, parce qu'on est déçu. Nous sommes déception dans l'after ce soir. Simone, dans un instant, Ludo Bragnac à mes côtés avec Jonathan McCarty, l'after revient.
RMC, l'after foot, Nicolas Jamain.
Mais oui, l'after est là, on est ensemble jusqu'à minuit. C'est samedi soir, il est 23h21, on est sur RMC avec Jonathan McCarty. Comment ?
Le tribunal.
Petite soirée après ou pas, Jonathan ?
Viens.
La France veut savoir.
C'est samedi soir, oui.
Samedi soir.
Oui, et puis tu sais, maintenant, le samedi soir, on ne sort plus. C'est démodé.
Ouais, mais moi j'aime bien.
C'est le jeudi soir, le new samedi. Bah, et c'est
on en a parlé, bien sûr, mais j'aime bien. Elle fait un petit tour avec Marinette dans le carchon à boire des coups.
Marinette qui est Germain, un animal. D'accord, précisons-le, c'est un chien. Ludo, tranquille, toi, à la maison, ce soir.
En père de famille, je vais rentrer chez moi.
Voilà, exactement, puisque quand on a des enfants, nous n'avons plus de vie, évidemment.
Exactement.
Nous ne pouvons plus sortir.
Et dis ça avec autant d'aplomb, c'est ça qui est dingue.
On a un père de famille qui nous attend. Il est en Italie désormais. Il s'appelle Simone Rovera. Voilà, ça, si vous n'avez pas reconnu, c'est Simone qui chantait à la gloire de Turin de Cristiano Ronaldo. Salut Simone!
Ciao,
bonsoir. Bon, je te préviens.
Je voulais chanter. J'ai dit la vérité. Je voulais chanter. J'ai dit je chante. Puis j'ai dit non, mais qu'est-ce que je vais chanter là? Ils vont rien comprendre en italien. Donc
Tu nous as chanté la sérénade hier. Alors, vas-y, explique-toi.
Bon, Simone, on a des trucs à régler avec toi là, parce que voilà, pour être clair, on en a parlé à la fin de la saison. C'était une négo avec la haute direction d'RMC. Doit-on renvoyer Simone chez lui au pays en Italie?
À Turin, en plus.
Oui, à Turin, pour qu'il ait encore plus d'infos que ce qu'il avait avant.
Sur la Juve, spécifiquement.
Il a dit je fonce. La direction s'est mobilisée, appartement de fonction, 300 mètres carrés, cœur de Turin, dans la rue de Gonzalo Higuain. Ouais. Tout ça pourquoi ? Pour nous livrer une composition foireuse.
Et qu'en plus on fasse des débats et des spéculations sur Dybala et Matuidi. T'imagines ?
Alors attends, on va préciser ça tout de suite.
C'est qui ? Attends, c'est Nico Jamain, c'est vrai, non ? Oui,
c'est ça.
Nico Jamain, message WhatsApp. Alors, je viens de t'envoyer.
J'ai un message sur WhatsApp, effectivement.
Tous les trois compos sortis par Gazzetta dello Sport, Tutto Sport et Corriere dello Sport, c'est matin.
Mais on ne paye pas pour que tu reprennes les autres des autres journaux, Simone.
Laisse-le se défendre.
T'entends ce qu'il dit ? On ne paye pas pour que tu ailles sur dans les autres gazettes.
Vas-y, Simone.
Nous, on a parlé hier soir. Donc on a fait un débat hier soir. Et moi, je vous montre les compos que ce matin, toute la presse italienne, toute la presse sportive italienne, mais pas que la presse sportive italienne, avait donné. Et c'était la mienne. Donc, déjà, ça veut dire que j'influence toute la presse italienne. C'est déjà très bien.
Il est beau.
Non, mais Maurizio Sarri nous a surpris, nous a fait une.
Attends, on va
surprise.
Rappeler Simone avant de te laisser poursuivre. Que tu avais annoncé Rabiot, c'est Matuidi finalement qui a joué. Mais ça, c'est vrai pour le coup, énorme surprise, les gars.
Ouais.
On pensait que Matuidi était quasiment.
Et Dybala devait être titulaire.
Higuain est titulaire.
Donc,
et après De Silio à la place de Danilo.
Personne ne s'attendait à ça. Et l'explication qu'il a donnée pour commencer par la fin du match, l'explication donnée par l'assistante de Maurizio Sarri, c'est-à-dire Martuchel, c'est qu'il avait besoin de joueurs qui connaissait bien les rôles pour parler d'avant-centre. C'est la raison pour laquelle Higuain a joué numéro 9 et pas Dybala qui doit s'adapter dans ce rôle de faux 9. Je peux penser que c'était la même chose pour Blaise Matuidi qui connaissait déjà ses coéquipiers et les championnats italiens. Donc imaginez, toutes les nouvelles recrues de la Juve étaient sur les bancs de touche. Et vous pouvez voir, mais je vais vous donner dans quelques secondes, qu'est-ce que c'était les banques des touches de la Juve, c'était une folie aujourd'hui.
Ouais. On rappelle que la Juve a gagné, hein, Simone, aujourd'hui possible. 1-0 sur la pelouse de Parme, un but de Chiellini, hein. C'est Chiellini qui a marqué.
Quand tu sais que c'est Chiellini qui marque, tu sais que ça a été laborieux.
Ronaldo met le 2-0 assez vite, mais qui s'est annulé pour un hors-jeu. Alors là, hors-jeu.
Ridicule. Vraiment le la VAR, on va pas en faire une demi-heure, mais il y a peut-être un ongle qui dépasse.
Même pas,
il y a rien.
C'est impossible de sortir l'hors-jeu ou pas.
C'est vrai, Simone.
Bah c'est sur ces choses-là, la VAR doit avoir des machines. Il a une technologie qui va contrôler ça. On peut que faire confiance à la technologie. Bon, c'est peut-être un cheveu, une sourcil où il a trop d'abdos et donc ça dépasse. Donc c'est pas seulement avoir du ventre, c'est peut-être pas dans les VAR. Donc si t'as trop d'abdos, tu dépasses la ligne du VAR et de leur jeu. Donc voilà.
Sur le révélateur, en tout cas sur la ligne. On ne voit pas de Ronaldo qui dépasse.
Non, c'est impossible.
C'est l'épaule. En théorie, c'est l'épaule. Donc, on ne le voit pas parce que l'épaule, quand on voit la ligne, on regarde surtout la ligne du pied. Là, c'était plus haut. On a compris ça, que c'était l'épaule ou c'était quand même en partie de l'épaule qui fait pas la partie qu'on doit comprendre avec les bras parce que les bras ne comptent pas. Mais bon, c'est pour rien. Mais c'est une décision qui a fait beaucoup sourire les supporters du Parme, un peu moins ceux de la Juve. Mais aujourd'hui, je peux dire que c'est une journée de folie sur toutes les décisions arbitrales. Et on va parler plus tard des Fiorentina-Napoli.
On va en parler, oui.
Il y a beaucoup de choses à dire. Surtout sur le jeu. Hein, je veux parler du jeu parce que c'était une belle journée, une belle soirée.
Simone, donc zéro recrue alignée aujourd'hui pour la Juve, pour cette victoire 1-0 face à Parme. Arrêtons-nous sur Matuidi, parce qu'effectivement, on en parlait avec Ludo et Jonathan hier. C'est incroyable. On lit ici et là, alors même si parfois c'est démenti, qu'il serait peut-être pas dans la liste pour la Ligue des Champions, que Rabiot va s'imposer, en tout cas dans l'esprit de Sarri, c'est Rabiot le titulaire devant la défense notamment, ou en relayeur. Et aujourd'hui, surprise, Matuidi titulaire. Comment tu l'expliques ?
Bah, je l'explique que, comme je disais, c'était une composition vraiment. On aurait pu dire que c'était la Juve de Allegri parce que De Ligt, Danilo, Rabiot, Ramsey n'étaient même pas sur la feuille du match parce que c'était pas sélectionné. Mais la Juve cette année a toute la saison pour, je pense, intégrer les nouvelles recrues. On va les voir. Imaginez, nous, on part de Rabiot parce que logiquement, c'est français. Il a fait un très bon pré-championnat et c'est intéressant. Mais Matisse de Ligt, capitaine de l'Ajax. Il y a aussi celui qui était le meilleur défenseur avec Van Dijk de la saison dernière en Ligue des Champions, qui est Matisse de Ligt, qui n'est même pas rentré en jeu. Rabiot est rentré en deuxième mi-temps par la 60e à la place de Khedira. Donc, la Juventus va voir cette année une telle richesse d'effectifs. J'ai dit les banques de touche aujourd'hui, c'était Buffon, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Emre Can, Rabiot, Betancourt, Mandzukic, Bernardeschi, Dybala ouais. Et j'oublie sûrement quelqu'un.
Dybala n'est pas rentré pour le coup. C'est Bernardeschi qui
est rentré. Dybala n'est pas rentré, c'est Bernardeschi qui est rentré. Donc, c'est une surprise, mais pour être la première journée, c'est pas une si grande surprise que ça, parce qu'on voit souvent que les équipes au début du championnat, c'est pas un match amical. Oui. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on comprend pas. Et il y a
par exemple,
une Simone, mécanisme défensif.
Tu parlais de Ligt, il a pas fait une préparation folle. Hein. On est d'accord là-dessus.
Bien sûr.
Il a pas fait une très bonne pré-saison. Hein.
Quand il a joué, on le voyait un peu en retard de préparation. Mais Bonucci, pour moi, était plutôt, j'ai dit presque une des pires sur cette pré-saison. Lui aussi, c'était pas extraordinaire.
Donc,
la Juve, globalement, pour moi, a fait une très mauvaise pré-saison. J'ai pas vu de match encourageant. Les dernières amicales face à la Triestine, l'équipe des Serie C, c'était pour moi très décevant. Aujourd'hui, c'était pas une très belle Juve qui, dans les 30 dernières minutes, a énormément souffert.
Avec Gervinho.
Gervinho, il a fait un beau match, ça pouvait faire un peu mieux encore. Et Parme, aujourd'hui, n'a pas été flamboyant. La saison dernière avait démarré beaucoup mieux la saison. Si la Juve avait eu un adversaire un peu plus compliqué, ça aurait été
plus
difficile cette première journée.
Ils ont pris des risques.
Mais comme le dit Simone, c'est pas si surprenant de ça quand on connaît Sarri. tu sais qu'il est, il arrive à la Juventus, c'est un gros projet, c'est un gros changement, c'est un virage à 90 degrés là que prend le que prend la
Juventus. On parlait d'entraîneur.
Moi je me demandais, c'est pas surprenant le connaissant de se dire sur le premier match, notamment à l'extérieur, de jouer, on va dire petit bras, d'assurer le coup en mettant un milieu de terrain à vocation un peu plus défensive et en laissant de la liberté à tes trois attaquants
je
devant.
Je m'attends pas de voir grand chose. Hein.
Ouais voilà, on s'attend
déjà à la saison prochaine. Après la trêve, avec les débuts de la Ligue des Champions, des rotations, on verra toutes les nouvelles recrues qu'on veut.
Bien sûr. Et puis tout à l'heure, on parlait de choix de coach, tu vois, qui était, tu passes du coq à l'âne, là, concrètement, Allegri Sarri, c'est vraiment passé, c'est plus que 90 degrés comme virage. Il va falloir que tout le monde, assimile bien les principes de jeu de Sarri. Ça va prendre un petit peu de temps quand même, parce que là, quand tu regardes la composition, quand tu regardes ce qui a été mis en place pour l'instant, tu vois pas grand chose, quoi, de différent par rapport à la saison dernière. Et je te parle pas juste des joueurs, je parle
d'enjeu. Il y a eu des petites phases des jeux intéressantes, surtout en première mi-temps, où Parme, comme d'habitude, il attendait très bas. Après, quand il a encaissé les buts, il a compris, Parme, que ça ne servait plus à rien de défendre bas et attendre les accélérations de Gervinho. Et là, quand Parme faisait presque rien, on a vu même des phases des jeux très intéressantes de la Juve, parce que globalement, on dit la première période, c'est plutôt réussi, un but marqué, l'autre refusé par hors-jeu quand c'était.
Mais c'était par séquence, quoi. C'était vraiment par à-coup.
Mais c'était par séquence. Et là, dans cette phase des jeux où la Juve était plutôt intéressante, Matuidi, tu voyais qu'il ne rentrait pas vraiment dans les styles de jeu de la Juve à un touche de balle. À la fin du match, quand la Juve fatiguait beaucoup, quand Parme cherchait d'attaquer et attaquait beaucoup, surtout les dernières 10-15 minutes, ils ont allé chercher ces matchs nuls, là Matuidi a été beaucoup plus précieux. C'est pas un hasard qu'il a joué 90 minutes et sur la fin du match, on peut dire qu'il a sauvé sa note de la soirée. Mais
il
moi
a été
je crois
précieux,
pas
ouais.
Matuidi titulaire toute la saison à la Juve.
On peut souligner aussi Simone, on peut souligner aussi parce qu'il passe souvent, il passe un peu sous le radar. Encore le bon match du Français Vincent Lorini à Parme, latéral droit.
Il a fait des bonnes choses défensivement. Après, lui,
il est solide. Hein.
Sur les centres, il n'a pas été extraordinaire.
Ouais, mais il est solide défensivement, Simone, quand même. Hein.
Il est passé par des clubs comme Empoli, Fiorentina. À Fiorentina, les niveaux peut-être c'était un peu. C'était une saison compliquée la saison dernière. Il n'avait pas arrivé à s'imposer. Je pense que repartir de Parme, c'est pas mal pour lui. Il avait des adversaires pas simples aujourd'hui sur son côté droit de la défense. Il y avait Cristiano, il y avait Alexandro.
Et Simone, là, au niveau des individualités et des. Parce que t'as des gros caractères dans cette équipe quand même. Comment on peut expliquer qu'un garçon comme tu l'as dit, Mathis Delirte, arrive dans un tel club et accepte de. Mais c'est normal de quoi
c'est normal,
tu finis à l'Ajax. Tu finis quasi meilleur défenseur de.
Mais oui, c'est bon outil que
mais t'as besoin de jouer. C'est quoi ce choix
mais bien sûr, c'est eux, mais il arrive. Il quitte pas l'Ajax pour être numéro 3 en défense centrale.
En remplaçant à la Juve. Moi, je pense qu'il jouait ça où
vas-y, Simone.
Et puis même Dybala. Ça relance aussi le cas Dybala.
Non, mais attends, laisse-le Simone.
Mathis De Ligt qui a 20 ans et qui vient d'arriver à la Juve où il y a Bonucci et Chiellini qui aujourd'hui c'est sûr qui est une il a 35 ans
oui.
il marque un but décisif quand même aujourd'hui et oui, il est plutôt bon et l'autre c'est Bonucci qui a été pour quelques saisons un des meilleurs défenseurs du monde
le meilleur
mais c'est pas par rapport à ça Simone c'est
mais
comment
mais
ce garçon
gars, non,
comment ce garçon peut, il peut faire le choix en pleine possession mais, de ses moyens alors donc toi tu Mathis De Ligt
moi je me pose plus la question
on est en début de saison que c'est normal qu'il commence sur le banc mais je pense qu'à la fin de la saison il est titulaire il va s'imposer progressivement tu peux pas les sortir
et on va mesurer la patience du garçon parce qu'effectivement il est considéré comme un des meilleurs défenseurs centraux d'Europe la saison dernière
je pense qu'il le sait quand il
arrive à la Juve avec deux papilles entre guillemets
mais il le sait quand il va qu'il va falloir qu'il peut pas avoir la place directe tu peux pas sortir de l'équipe les deux tauliers de la dernière décennie pour mettre directement un jeune de 20 ans il va se la faire sa place.
Simone, défenseur et capitaine d'une équipe qui va en demi-finale de la Ligue des Champions. Tu vas attendre un an que Chiellini et Bonucci s'arrêtent.
Va pas attendre un an et ça va être progressif. On est en début de saison. Je te dis juste qu'à la fin de la saison, à mon avis, il est
Simone.
Je
trouve que c'est un Simone.
Oui, non, je disais que plutôt que le cas des Ligt pour les vestiaires, pour l'équilibre des vestiaires. Moi, je me pose la question sur ce que va se passer avec Emre Can, sur Mandzukic, surtout Mandzukic, c'est quelqu'un qui dans les dernières saisons, il a été toujours titulaire. Quelqu'un qui a gagné une Ligue des Champions avec Bayern, il a marqué un but en finale, finale de la Coupe
c'est
du Monde.
C'est beaucoup sacrifié pour Cristiano aussi.
Il s'est toujours, oui, c'est beaucoup sacrifié la saison dernière. Et cette année, en tant que numéro 9, pour l'instant, il y a Higuaín, qui aujourd'hui n'a pas fait un grand match, mais c'est lui, oui, beaucoup sacrifié pour chercher d'aider Cristiano à ouvrir les espaces. Donc, match plutôt moyen d'Higuaín sur la phase offensive, sur la phase de travail à la Benzema, on peut dire. Plutôt bonne. Il y a Dybala à voir s'il accepte, s'il reste et s'il accepte de faire des journées à zéro minute. Et Mandzukic, c'est quelqu'un qui, par contre, cache pas quand il n'est pas satisfait. Il ne les cache pas. Comme je disais hier, il passe l'amical de Trieste la semaine dernière sans mettre pour plusieurs minutes les brassards et chercher de les refiler à quelqu'un d'autre. C'est pas voilà un geste normal.
Simone, voilà pour la Juve. Il faut qu'on garde du temps pour parler de l'autre oui. match complètement dingo de la Serie A aujourd'hui. Fiorentina-Naples, hein, pas parce que Ribéry a joué. Il est entré en jeu, Ribéry. Il a joué 20 grosses minutes, c'est ça ? 15 grosses minutes ?
Ouais, 15 grosses minutes, on n'a pas vu grand-chose. Il allait chercher un penalty à un certain moment, il y a eu une faute sur lui, probablement dehors de la surface, et c'était une des épisodes qui a fait beaucoup râler les publics des Firenze, mais globalement, je veux dire deux choses sur ce match.
Alors, je rappelle le score, Simone. Voilà. Victoire 4-3 du Napoli sur la pelouse de la Fiorentina, OK ? Scénario incroyable, ouverture du score de Pulgar pour la Fio, égalisation de Mertens pour le Napoli, 2-1 pour la Fiorentina, Milenkovic, non 2-1 pour Napoli, pardon, il signé, égalisation Milenkovic de partout, puis Calderón offre le 3-2 à Naples, égalisation. Alors ça boite, hein, messieurs, ouais. pour Fiorentina. Elle a 65e et 3 minutes plus tard, Insigne pour un doublé qui permet à Naples de s'imposer. 4-3, match complètement fou, Simone.
Oui, complètement fou. La force de Napoli qui a fait beaucoup, qui a montré beaucoup de faiblesses en phase défensive, des erreurs et surtout, il s'est fait marcher dessus pour les premières 30 minutes de la Fiorentina qui est une équipe très jeune avec une énorme intensité et si elle arrive à garder ça pour toute la saison, au moins une certaine vague de force, de jeunesse, de réactivité, des vitesses, ça peut être une surprise. Napoli, il a marqué les 3-2 4 minutes après avoir cassé les buts de 2-2 et comme tu disais il signait 2 minutes plus tard du but de l'égalisation de 3 partout de Boateng, marque les 4-3 donc Naples montre d'avoir une solidité mentale, de savoir qu'elle est plus forte et de marquer des buts avec une Calderón sublime ce soir, un Insigne décisive. On a presque oublié de dire que Milik n'était pas là parce qu'il est blessé et on parle souvent de Naples qui cherche un attaquant quand on voit qui est devant et c'est extraordinaire. Globalement, il y a eu des épisodes qui ont fait beaucoup discuter. Je veux signaler une chose que probablement on ne sait pas encore. Les directeurs sportifs de la Fiorentina, après les matchs, il a dit que les arbitres lui ont fait comprendre qu'il y a des caméras qu'on ne voit pas à la télé, des caméras basses, qui sont à disposition que du VAR, et que pour ça, la décision sur le pénalty de Mertens, qui semble incroyable, était logique. Et donc, si le directeur sportif de la Fiorentina dit on accepte ça, parce que s'il y a des caméras qu'on ne voit pas, on ne peut pas juger avec des images qui ne sont pas les bonnes.
Voilà. Ah oui, c'est étrange l'histoire.
Ouais. Donc, il y a des images. Il y a des caméras pas. Qui sont que pour le VAR et voilà, sont pas pour la télé.
Il y a des caméras secrètes pour le VAR, hein, pour justifier bizarre, hein. des décisions c'est parfois contestées. Non mais je vous jure, il y avait une 12e caméra, vous l'avez pas vue.
Ouais.
C'est superbe ça, comme affaire.
Ça c'est ce qui a été dit sur Sky Sport par le directeur sportif de la Fiorentina. Je pense que c'était important de le dire parce que tout le monde a vu un peu les épisodes sur Twitter, sur les réseaux sociaux de ce penalty sifflé pour Mertens où il tombe apparemment toute seule et confirmé par les VAR. Donc c'était étrange, mais apparemment, okay. il y a une raison.
Merci Simone.
Ciao,
excellente
Simone.
Soirée à toi.
C'est... Quelle saison on va vivre ensemble ?
C'est quoi ? Simone Rovera, bonne soirée à toi à Turin.
Ciao, 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 ciao.
Fred Hermel sera avec nous. Il attend chez lui patiemment. Je sais pas s'il sort le samedi soir, Fred Hermel. Je pense pas. Il n'attend pas le samedi soir pour sortir.
Mais en fait, quand il sort et qu'il essaie de sortir à Paris, il se fait recaler.
À Paris, mais là il est chez lui, il est à Madrid, tu vois. Ouais, il était à Bernabéu.
Il faudrait aller vérifier s'il est vraiment si populaire que ça là-bas, tu vois.
Ah ben ça je peux te le dire. On en parlera dans un instant, j'ai passé à Bernabéu avec lui un soir de match.
C'est une star.
Tu mets une demi-heure pour rejoindre la porte des journalistes. Impossible.
Il a même un cocktail à son nom, c'est ça.
C'est Hermel, exactement. Dans un instant, toujours avec Ludo Bragnac et Jonathan McCarty, Fred Hermel arrive pour parler du match nul étonnant du Real Madrid. Et si étonnant, on en parle avec Fred. À tout de suite.
RMC, jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Nicolas Jamain.
On est là ensemble jusqu'à minuit, il est 23h41, on est sur RMC, le débat se poursuivait hors antenne sur De Ligt, hein. Ludo est en colère contre Jonathan, Jonathan qui justifie la mise sur le banc de De Ligt devant, derrière Chiellini et Bonucci.
Il va s'imposer, ouais,
il n'a pas à s'imposer ce garçon désormais. C'est même plus l'avenir de défenseur central européen.
Le problème, c'est qu'il est arrivé, il t'a des meubles et il faut les sortir diplomatiquement. Et diplomatiquement, ça va se faire, mais dans 2-3 mois, il est titulaire.
Excellent Rome, diplomatique. Merci d'être avec nous. Fred Hermel est là. Dans un instant également, n'oublions pas, évoquerons. Mais non, c'est bon, Nicolas Villa sera avec nous. Pour revenir sur le Haut Classico, c'est le grand derby historique du championnat portugais qu'on vit sur RMC Sport, bien sûr, Benfica-Porto, on ne dit rien pour l'instant, on débrief avec lui dans un instant, grosse pression sur Porto, hein. Le Porto de Conte, de qui, Ludo? Le Porto de
Conte Sarr.
Voilà, très bien, Nico Villas, c'est fort, hein. T'as vu?
Ah, c'est magnifique.
Un franco-polonais qui arrive à prendre l'accent portugais.
C'est un globe trotteur, Ludo, il était partout.
J'étais à bonne école.
Ouais. Citoyen du monde, également.
Oh là là, citoyen du monde, c'est interdit ça.
Hola chicos. Alors moi je vais vous raconter un truc. Me détester, ça porte pas bonheur. Ça porte pas chance aux gens.
Qui a dit ça?
Il y a un bar à boîte un soir qui a pas voulu me laisser rentrer, ils ont fermé. Eh ben voilà. Non, c'est pas bon de détester
Fred Hermel. C'est pour les 10 ans de l'after, oui.
Réalité ou pas?
Ah mais c'est une réalité. Non, c'était pas 10 ans de l'after. 10 ans de l'after, on était dans un bus.
C'était un bus, 10 ans de l'after.
Ouais, non, c'était un soir, une soirée RMC.
Il était pas né encore. Laisse Fred expliquer.
Mais non,
l'histoire.
T'as tort. C'était le soir des 10 ans de l'after. On avait été dans le bus et après le bus, on avait été à une soirée. Et oui.
Non, mais c'était pas cet endroit-là.
Bon, Fred, raconte vite fait l'anecdote. Ce bar qui a dû fermer car il t'a refusé.
Bah, en gros, c'est ça. Enfin, je sais pas s'il y a un lien de cause à effet. En tout cas, il m'a refusé. J'ai fait la gueule. Ils m'ont dit, ah oui, excusez-nous. Non, j'étais trop tard. Moi, tu me refuses pas, je me casse. Non,
tu t'as pas fait la gueule, t'es énervé, Fred.
Je me suis cassé, j'ai fait la gueule. Et depuis, ils ont fermé, c'est tout. Voilà. Faut pas détester Fred Hermel. C'est gentil, Fred Hermel.
La vraie question,
ça porte malheur de détester Fred Hermel. Bon, Chicos, j'ai un truc à vous raconter, là.
Fred, deux secondes, la vérité, c'est pourquoi il t'a refusé.
Mais parce que c'était un truc, are you on the list? Tu vois, c'est le mec qui se croyait à Manhattan, quoi, tu vois.
Non.
Allez,
c'est une histoire qui reste en
mais on s'en fout, parce qu'il y a plein de trucs
Fred,
à raconter.
On va commencer par le Real, si tu le veux bien.
Alors moi, c'est simple.
Un partout, à domicile, Valladolid, étonnant. Bah,
c'est
pourquoi
simple. On va simplement le résumé, la sensation de Zidane, ça résume tout. Donc je vous propose d'écouter Zizou qui a répondu à ma question après la rencontre.
En ayant fait une deuxième mi-temps un peu compliquée pour nous à tous les niveaux, marqué, chose qui est pas facile quand tu as moins d'occasions, c'était super important. Et là, prendre un but comme ça dans les dernières minutes alors qu'on n'est pas bien placé, bah, ça fait un peu chier, mais c'est comme ça. C'est 2 points perdus, ça c'est sûr, clairement, parce qu'il y avait la place de pouvoir justement gagner ce match. Donc on n'est pas content ce soir, ça c'est sûr.
Ah, fait un peu chier.
Et oui, ça fait chier, il le dit.
Bah oui, parce que Benzema marque à la 82e un sublime but, alors qu'il s'était fait mal à un orteil, etc. Moi, j'ai même eu peur à un moment, je lui dis, j'espère que c'est pas pété un orteil. C'était au pied gauche, et après, une passe un peu ratée de Varane, un centre un peu raté de Varane, Benzema qui fait un contrôle magnifique, frappant pivot du gauche, qui va se loger juste à l'intérieur du poteau gauche du gardien. Enfin, c'était le 82e minute, tu te dis, c'est bon, c'est réglé. Et après, une erreur défensive encore, avec Varane pas terrible, une perte de ballon de Kroos, erreur de placement, les vieux démons du Real, c'est-à-dire qui, et Zizou l'a dit aussi en espagnol, il faut pas jouer un match c'est 90 minutes, il faut pas qu'on joue 60 ou 50 ou 60 minutes dans un match. La première période était vraiment très belle. Alors c'était intéressant de voir. Imaginez une attaque composée de Benzema, de Bale,
Rames
et Marcelo qui était lié gauche tout le temps. Ouais. C'est la première période était à voir, c'était vachement beau. C'était des passes, des connexions, des mouvements offensifs magnifiques, etc. Sauf que ça manquait un petit peu le dernier coup de rein, un petit peu d'efficacité, etc. Et en deuxième période, ils ont pas bien joué. Valladolid s'est senti beaucoup mieux. Voilà. Puis tu sens en Liga, ça se passe comme ça. Vous me dites que moi je la ramène tout le temps avec ma Liga, mais dès que tu relâches, t'es un grand, tu relâches, et ben tu te prends un but. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont. Ça, c'est les vieux démons du Real. Et Zizou l'avait dit hier. Si on croit qu'on va gagner facilement contre Valladolid, on se plante. Voilà. Et ils n'ont pas gagné. Et ils ont perdu 2 points. Et c'est ridicule parce que l'euphorie d'il y a une semaine née de la victoire à Vigo et de la défaite du Barça. Bah, ce qui fait que le Barça, s'il gagne demain, revient à un point.
Fred, c'est quand même incroyable. Il y a deux semaines, même pas, que dis-je, 10 jours, Bale est partant.
Rames, pareil. Les deux gars, ils débutent le match ce soir à Bernabeu.
Oui, parce que Bale,
il n'a pas le choix,
bon
Zidane
match.
C'est quoi l'histoire?
Non, mais Zidane, il a des joueurs, il les fait jouer. Hazard est blessé. Bale a fait un excellent match la semaine dernière. Il a été bon ce soir en plus. Hein. Rames a fait un retour pas trop mal. Il a joué 55 minutes, c'est pas mal. Donc Zidane, c'est un pragmatique. À partir du moment où ces joueurs devaient partir, mais que personne n'en veut, que personne ne veut payer les 15 millions de salaire net, donc 30 millions par an pour Gareth Bale, bah il va pas le laisser dans les gradins, voilà. Et voilà, c'est dans l'état d'esprit où le Real a été vraiment bien pendant une heure, mais après et après ils ont baissé. Et en Espagne, sincèrement, tu payes cash, quoi. Quand t'es pas à fond pendant 90 minutes, et ben tu le payes tout le temps. Et Zizou, je peux vous dire, Dieu sait si je le connais, il avait vraiment la tête des mauvais jours, parce que ce genre de truc, que l'équipe n'y arrive pas, ok, ça bon, tu fais 0-0, tu n'as pas réussi, etc. Mais là, tu mets un but à la 82e.
C'est presque pire, en fait, non?
Ah, mais c'est pire. 0-0, tu dis, on a tout essayé, ça n'a pas marché. Mais là, t'es une équipe, t'es Real Madrid, 82e minute contre Valladolid, tu mènes 1-0, tu peux pas prendre de but, quoi, c'est tout, voilà. Et il a même dit à un moment, alors ça, c'est très dur à traduire. Il faut que je le traduise en ch'ti, en fait. Il a dit, il a dit ça, mais enfin, en gros, la traduction en ch'ti, c'était, tu sacotes d'un, quoi. Tu sacotes d'un, c'est-à-dire, attends, tu donnes un grand coup de pied dans le ballon et tu renvoies l'embrouille loin de la tribune.
Là,
quoi,
c'est comme un grand moment. On a Fred Hermel qui traduit Zizou en espagnol.
Voilà.
Mais en ch'ti.
En ch'timi, c'est mieux le truc. Il a dit, et ce qu'il comprend pas, c'est que la défense, t'as un ballon, tu donnes un grand coup de pied dedans, quoi, tu vois. Et là, ils ont voulu, ils ont fait n'importe quoi. Mauvais dégagement, parce qu'il n'y a pas eu de dégagement. Donc, c'est dommage, parce que je vais pas dire qu'il y a de nouveau la crise au Real, mais l'euphorie a disparu, quoi. Voilà, c'est fou, quoi.
Ludo, est-ce qu'il faut être inquiet pour ce Real? Est-ce que le Real peut revivre une saison comme la saison dernière? Il le dit, on revoit des mots de saison dernière déjà après deux journées en championnat.
Sa force, c'est de permettre à certains joueurs de se remobiliser. Or, durant cet été, on a vu qu'il y a certains joueurs de sa défense qui ont peut-être émis le souhait de partir, parce que ça faisait longtemps qu'ils étaient là.
Marcelo.
Ils ont gagné beaucoup de choses. Ils avaient peut-être besoin d'un coup de boost, d'aller ailleurs pour voir autre chose, pour... Il a réussi, pour l'instant, apparemment, à fédérer ces joueurs-là pour leur permettre de rester une année de plus. Est-ce que c'était finalement une bonne idée? Ouais. Est-ce que finalement c'était peut-être pas le moment aussi de rajeunir cette défense?
Il a recruté à mort. Hein. Il y a eu beaucoup de recrues quand même.
Bah oui, et là, pour l'instant,
Militao, c'est un bon joueur,
Il a été titulaire pendant les matchs de préparation. Enfin, Militao, il va jouer beaucoup parce que Zidane fait énormément tourner. Zidane ne pense pas. Et ça, c'est un truc. C'est difficile à expliquer parce que les gens ne voient toujours que le 11 titulaire. Non, Zidane, c'est un groupe de 23-24 joueurs. Et tout le monde va être important. Donc, Mendy va être important. Ça, j'en suis persuadé. Ouais. Militao va être important. Voilà.
Jovic, pas convaincant pour l'instant. Hein.
Ouais, il fait une entrée. Il frappe la barre, quoi.
En prépa moyen, là.
Ouais, mais bon, après, il vient d'arriver, quoi. Ouais. Enfin, le mec. Et moi, je voudrais simplement. C'est ce que je disais hier soir dans cette nouvelle grande émission de notre ami Jérôme Bretagne. Je faisais un petit coup de gueule dans la minute Fred, là. C'était, laissez-le s'installer, quoi. Franchement, Jovic, en plus, il parle pas la langue, il arrive d'Allemagne. Enfin, on peut lui laisser quelques mois ou avant de s'installer. Je voudrais simplement rappeler que Zidane a mis 6 mois à trouver sa place au Real Madrid. Donc Jovic a le droit aussi de prendre Zidane le joueur, bien entendu, c'était en 2001, le même manière que Benzema va avoir du mal au Barça. Il connaît bien l'Espagne, il parle parfaitement l'espagnol, mais c'est un autre style de jeu, c'est une autre philosophie et il doit s'habituer.
C'est vrai que c'est sa meilleure saison, Zidane. Sa référence, c'est 2016, quand il fait le doublé Ligue des Champions, 16-17, il fait beaucoup de joueurs jouent. T'as plus de 24 joueurs qui tournent dans l'équipe. Mais c'est pour lui un exemple, une référence.
Ah, mais c'est la référence. Je vais vous dire, parce qu'un jour, j'en parlais avec Zizou, et je lui disais, mais tu sais, Morata, qui était le remplaçant, et Zizou ne se souvenait même pas d'avoir fait jouer autant. Il dit qu'il avait joué 44 matchs entre titulaire et remplaçant, 44, et sur toutes les compétitions, 44 matchs pour un remplaçant.
C'est beaucoup,
ça veut dire que c'est beaucoup. Et Zidane, moi je me souviens très bien d'une, et la philosophie Zidane va pas changer. Le Real perd la dernière minute 3-2 avec un but extraordinaire de Messi, le Classico. Le Barça passe à un point devant le Real. Le Real avait un match en retard. 3 jours après, il y a un match à La Corogne. N'importe quel entraîneur aurait mis l'équipe titulaire habituelle en disant, bon, je vais assurer le coup. Il fait 9 changements. et les gamins gagnent 6-2 à la Corée. Oui. Quand tu fais confiance à l'ensemble de tes joueurs, Ludo, toi tu l'as senti comme footballeur.
Oui, oui, je l'ai senti, mais à un moment donné aussi,
ça peut trouver ses limites aussi.
Non, mais, quand, non, mais j'étais remplaçant, non, mais que tu
c'est pas vraiment parce que quand Ferland Mendy qui se retrouve au Real, le mec, il se demande s'il a pas gagné au loto non plus, tu vois.
Ouais, mais il va
à un
jouer
moment
aussi.
Donné, il va peut-être jouer, mais je me demande si justement le passage avec ces garçons qui sur lesquels il n'y a pas vraiment de doute sur leur qualité intrinsèque. On est plus de doute sur leur motivation. Quand tu vois le but qui est encaissé ce soir, c'est souvent des moments de déconcentration.
C'est 100% ça.
Voilà. Et est-ce que ces joueurs-là, qui commencent à être un peu aussi vieillis, pas Varane, mais Ramos, Marcelo et compagnie. Est-ce que finalement les joueurs que tu as pris sont à même de pouvoir les suppléer j'ai un vrai doute.
Fred, avant de te laisser, demain il y a un beau Barça, Betis également.
Avec un seul joueur, Griezmann. C'est le seul attaquant disponible.
C'est l'attaquant disponible.
Bah, ça lui fera peut-être du bien.
On attend plus de lui au Barça, hein. C'est ce qu'on a lu.
Oui,
il participe plus au jeu désormais. Ouais, est-ce qu'il est bien attaqué, Valverde, un peu
À un moment, Valverde, c'est peut-être à lui aussi de mieux expliquer à non mais c'est vrai, moi je t'ai toujours défendu Valverde, donc
attends,
je peux
le
dire aussi
d'exiger mais plus d'un joueur.
Oui, mais enfin, il a joué un match officiel,
c'est que Griezmann doit plus participer au jeu. C'est
il
là
a joué un match officiel aussi. Mais simplement, Griezmann, il découvre un autre football. Il était perdu sur la pelouse la semaine dernière. Je sais pas si vous avez vu le match.
Oui, bien sûr.
Il se trouvait pas. Et notamment quand il y a joué côté gauche avant la blessure de Luis Suarez, avec le Jordi Alba. Mais il y a un moment, il y a des pertes de ballons entre eux parce qu'ils se parlent pas footballistiquement. Donc il faut qu'il apprenne le langage footballistique
barcelonais. Il a beaucoup joué.
Et puis on verra.
On verra Nabil Fekir.
Il a beaucoup joué un football de transition, que ça soit à l'Atlético ou en équipe de France. Il n'a pas l'habitude d'être dans une équipe qui a peut-être 80% de possession se situer. Oui, forcément.
Tu passes de Simeone au Barça de historique Cruyff. Tu sais, tu vas dire Guardiola.
Mais la meilleure chose qui puisse lui arriver, c'est qu'il soit justement demain disponible, qu'il soit seul et qu'il te plante un doublé pour commencer à planter un peu les jalons.
Merci. On a très envie de voir Fekir parce qu'il n'a pas eu beaucoup de chance la semaine dernière, tout simplement parce que son équipe se retrouvait à 10 après l'expulsion du gardien la semaine dernière contre Valladolid qui avait gagné là-bas. Match important pour Fekir aussi.
Merci Fred. Salut, Fred. On va te laisser.
Adios,
parce qu'il y a un autre match à évoquer. C'est le Benfica Porto dans un instant, bien sûr. Ciao Fred. Excellente soirée à toi. Tu fais quoi ce soir? Tu sors?
Non, mais je suis vieux maintenant. Je vais me faire une soupe et puis au lit.
Une soupe et au lit, simplement.
Ouais,
très bien.
J'ai toujours une soupe, un suppôt et au lit.
Mais très bien. Bon suppôt, Fred. Excellente soirée à toi. À très vite dans l'after, bien sûr. Il est de retour dans l'after.
Oh. Oui. Mar, noble pauvre, ne s'en va rien.
C'est
immortal. Voilà les gars.
C'est Nico. C'est Nico Villas. T'as entendu Nico le léger cri de jouissance de Jonathan McCarthy quand j'ai dit il est de retour, il a fait oh.
Mais c'est normal, attends.
C'est la famille, Nico.
Et toi aussi maintenant, mais attends, on a passé l'année dernière ensemble. Salut mon Nico.
Nico Villas, animateur historique de l'After également avec vous messieurs, qui a un nouveau projet cette saison. Nico, on va le dire parce que sur Twitter tout le monde s'affole. Où est Nico Villas?
Non, faut pas le dire. On arrive.
Ah, on dit rien.
Non, je suis pas encore viré. Enfin, pas encore. Mais ça va peut-être venir cette saison du coup, parce que vu ce qu'on prépare, il y a moyen qu'on se fasse virer.
Il faut se rassurer, vous allez voir du Nico Villas, entendre du Nico Villas toute la saison sur RMC Sport, dans la maison RMC Sport bien sûr. Nico, on a fait appel à toi évidemment parce qu'il y avait le Haut Classico aujourd'hui.
Ouais, alors je constate que alors, autant Ludo maîtrise le conseil sans à merveille, autant le Classico tu le maîtrises pas du tout.
Tu fais comment?
Pourtant c'est pas compliqué, mon Nico.
Tu dis comment?
Bah, la syllabe tonique est sur le A, donc tu dis comment?
Classico.
Eh
oui, classico.
Ouais, c'est con, hein, mais c'est enfin, voilà, les accents servent à ça en portugais.
Tu veux dire que le Conceição.
Voilà, le Conceição est bon.
Il y avait une grosse pression sur Porto, Nico.
Il y avait surtout une grosse affiche après 3 journées seulement. Alors, ça paraît un peu bizarre, et au Portugal, alors il y a souvent eu cette tendance à vouloir protéger les gros, entre guillemets, c'est-à-dire faire en sorte que les Européens soient un peu préservés au début de saison. Vous savez que Porto a joué un tour préliminaire de Ligue des Champions. Oui. Ils se sont fait sortir par le Krasnodar de Cabela. Ils sont reversés en, en phase de groupe de Ligue Europa pour la saison prochaine. Et c'est vrai que ça a fait pas mal parler de se dire va y avoir un classico à gérer pour les gros clubs portugais, notamment pour Porto qui a des échéances européennes. Bah, le fait est que Porto, qui avait perdu la première journée face à l'immense et le merveilleux Gil Vicente, si cher à mon cœur, s'est imposé ce soir face au Benfica au stade d'Orouge, qui est le stade du Benfica. Il gagne 2-0 et franchement, j'ai rarement vu le Benfica autant en difficulté chez lui depuis que Bruno Lage est l'entraîneur. La première défaite pour Bruno Lage en championnat, qui avait repris l'équipe en cours de saison dernière, il avait succédé à Rui Vitória. Il avait été sacré champion alors qu'il avait un certain retard sur le FC Porto. Et le fait est que ce soir, cette équipe qui est très jeune finalement du Benfica, notamment en défense, elle a eu beaucoup de difficultés. Alors Lage, il est encore en train de tâtonner devant. Ils ont perdu le João Félix qui est parti pour 126 millions à l'Atlético.
Ils ont réinvesti comment, Nico ?
Alors, ils ont pris un ancien du Real, d'ailleurs, et du Rayo, qui s'appelle Raúl de Tomás, un attaquant. Alors, il l'aligne devant avec Seferovic, qui était le meilleur buteur de la saison dernière en championnat, l'international suisse. Le fait est que la doublette prend pas du tout. Il a perdu Gabriel sur blessure. Au milieu de terrain, il essaye de mettre en place une formule aussi. Il a remis Samaris, qui était annoncé partant. Il joue au milieu de terrain avec le jeune Florentino, qui est pas mal, d'ailleurs. Ils ont eu beaucoup de mal face à Porto. Porto a mis une intensité qui a été assez dingue. D'ailleurs, ce qui a été assez dingue, c'est de voir Porto réussir à maintenir ce rythme finalement pendant tout le match. Parce qu'il gagne 2-0, mais Marega rate le 2-0 avant de le planter bien avant. Il rate un truc de dingue. Il est seul face au gardien. Il arrive à la mettre à côté. Finalement, il finit par marquer enfin un but. Et en revanche, le joueur qui est vraiment en pleine bourre à Porto et qui est une recrue, parce que on parle beaucoup du mercato de Benfica parce qu'il y a eu ce départ très médiatique de João Félix, mais le fait est que le Benfica n'a pas perdu tant de joueurs que ça finalement. Porto, ils ont perdu énormément de joueurs à l'intersaison. Casillas, il peut pas rejouer encore, il n'a pas annoncé sa retraite officiellement, mais il a ses problèmes cardiaques. Herrera est parti gratos, Brahimi est parti gratos, Eder Militant est parti au Real, Felipe est parti à l'Atlético. Il y a eu énormément de départs à Porto à l'intersaison. Oliver est parti à Séville également. Et c'est vrai que Conceição, cette année encore, il doit refaire une équipe. Alors, il a un peu plus investi que les années précédentes. Et alors, il y a des places, toi que Jonathan, qui vont te parler, mais moi, le petit Luis Diaz, par exemple, qui était en Colombie, putain, il est fantastique, ce joueur. Ailier, dribbleur, virevoltant, il est extraordinaire.
Il risque de vite devenir titulaire en sélection même d'ailleurs, je pense.
Ouais, non, il est vraiment. Alors, il est allé au Portugal sur les conseils de Queiroz, qui est l'ex-sélectionneur du Portugal, qui est l'actuel sélectionneur de la Colombie. Mais il y a quelques petits joueurs comme ça intéressants que Porto est allé chercher. Mais il y a un truc moi que je voudrais souligner ce soir. J'étais en train d'écouter des analyses, notamment au Portugal. C'est vrai que le Portugal est un pays où le clubisme est très prononcé. Il y a beaucoup d'animosité entre les clubs, c'est pas mal cultivé par les dirigeants des clubs, par les médias aussi, par une partie des médias parfois, et c'est les discours d'après-match. Alors Conceição a été un beau vainqueur dans le sens où dans son discours, il a rendu hommage à Bruno Lage. Il l'avait fait en avant-match déjà aussi, au boulot de Bruno Lage. Et dans le camp d'en face, c'est Bruno Lage qui a rendu hommage à Conceição, à son discours d'après-match également. Et il y a un aspect, ça peut vous paraître très con, mais aucun des entraîneurs n'a parlé d'arbitrage. Et pourtant, alors il y a eu notamment une entrée de Pep sur Odysseas, le gardien du Benfica, qui était franchement limite. Il nous a fait une Pep, quoi, finalement. Mais c'est vrai que il y a des décisions qui parfois sont toujours un peu limites. Ouais. Ça n'a pas forcément été le cas aujourd'hui, mais il n'y a pas eu un seul mot là-dessus, ce qui est très très rare au Portugal et notamment après un classico, un match comme celui-ci. Porto gagne 2-0 à l'extérieur. Juste un petit point de règlement parce que ce serait important, ça l'a été dans les années précédentes.
Parce qu'il est minuit, tu connais la
contrainte. Ça se passe à la différence de but particulière. Porto a donc peut-être un point d'avance en plus sur le Benfica aujourd'hui.
Effectivement. Merci Nico.
Merci les mecs.
Merci Nico. Quand tu veux, évidemment, c'est chez toi ici. Excellente soirée à toi et bonne rentrée aussi.
Merci les gars.
Bonne nuit surtout. C'est fini messieurs pour ce soir. L'after revient demain avec Gilbert Bribois, bien sûr aux commandes. Daniel Riolo sera à ses côtés. Merci Ludo.
Mais merci.
Excellente soirée.
Bonne soirée.
Jonathan. Bonsoir à Marinette évidemment. Et on finit par ça. Il est de retour dans l'after. Oh. Ciao, à demain. Il est de retour dans l'after. Oh.
This summer at Chessington World of Adventures Resort, answer the call of the wild. With over 1,000 of the world's most amazing animals
and over 40 of the wildest rides and attractions.
Meet the Gruffalo and all your favorite characters at the Gruffalo Summer Party and so much more. Book early and save up to 40% at chessington.com. It's Britain's wildest adventure for all the family.